Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 19 janvier. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse. Au sommaire, le journal, les sports, le journal de la semaine en France. Et on partira un peu plus près des étoiles, vous allez voir. Restez avec nous, il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi 19 janvier, le Victoria a enregistré 4 nouvelles infections au Covid-19 en quarantaine dans les hôtels et 3 d'entre elles pourraient être des joueurs de tennis ou leur entourage. Les responsables disent que le Queensland est, je cite, sur la bonne voie pour assouplir les restrictions concernant le virus. Tennis Australia rejette les appels de certains joueurs pour réduire les matchs en simple masculin à 3 manches au lieu de 5 manches. Aucun cas de coronavirus acquis localement pour un 13e jour consécutif dans le Victoria. Cependant, 4 infections ont été enregistrées de personnes en quarantaine dans les hôtels. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, déclare qu'il pense que 3 d'entre eux sont liés à l'Open d'Australie et pourraient être des joueurs ou des membres du personnel. Le gouvernement du Victoria a assoupli les restrictions de voyage et les voyageurs de 25 régions du Greater Sydney peuvent désormais demander des permis pour entrer dans le Victoria.
The 10 remaining local government areas in Greater Sydney, they're being reviewed by our public health team each and every day, and as soon as we can release any of those local government areas, and that is to move them from red to orange, that's exactly what we will do. I don't believe that it'll be all 10 moving at the one time. All of these decisions are based on public health advice.
Et Daniel Andrews a réitéré pourquoi des restrictions restent en place pour certaines zones de Sydney qui ne correspondent pas à la définition nationale d'un hotspot.
I think it's fair to say we've got perhaps a more conservative approach. I think that Victorians would take a pretty dim view if, for the sake of national consistency, I said no, Brett Sutton, I'm not going to follow your advice. I don't think that'd be the right way to go.
Aucun cas de COVID-19 enregistré dans la communauté au Queensland pour le 2e jour de suite. Cependant, 3 nouveaux cas ont été enregistrés en quarantaine dans les hôtels chez des voyageurs de retour. L'un des cas concernait une femme récemment revenue d'Afrique du Sud. La chef du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que les restrictions devraient être assouplies dans le Greater Brisbane d'ici ce vendredi.
No concerns and we are on track. To have those restrictions lifted. We've only got 2 more days to go, so fingers crossed that all will be very, very good for Friday morning.
Aucun nouveau cas de COVID-19 acquis localement en Nouvelle-Galles du Sud pour la 2e journée consécutive, mais 2 infections ont été détectées chez des voyageurs de retour en quarantaine dans des hôtels. Dr Jeremy McAnulty de New South Wales Health déclare que le faible taux de tests est préoccupant.
There were 10,621 tests reported to 8 o'clock last night, compared to 8,773 in the previous day. These lower testing numbers are of concern, and New South Wales Health continues to urge people to get tested if they are experiencing any cold or flu-like symptoms. High testing rates are the key to our efforts to identify COVID-19 cases and to prevent the virus from spreading. This is particularly important in Western and Southwestern Sydney.
Les City ne considèrent plus les plages du nord de Sydney comme un hotspot de COVID-19 et cette loi entre en vigueur à partir de 15h ce mardi 19 janvier. Mais ces frontières restent fermées aux habitants de 10 autres zones locales du Greater Sydney. Le chef de Les City, Andrew Barr, a déclaré qu'environ 75 personnes actuellement en quarantaine après avoir voyagé sur les plages du nord de Sydney peuvent mettre fin à leur isolement.
This reflects the improved situation in that local government area. So what this means is that people currently in quarantine from the ACT who've been in the Northern Beaches will no longer be required to quarantine. People who are in the ACT from the Northern Beaches will also no longer be required to quarantine. People will be informed of this change via SMS and email from ACT Health.
Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que l'expérience et l'expertise internationale seront prises en compte pour le déploiement du vaccin national contre le coronavirus en Australie. 33 décès ont été enregistrés en Norvège depuis le début du programme national de vaccination Pfizer-BioNTech. Les responsables de la santé en Norvège affirment qu'aucun lien n'a été établi entre le vaccin de Pfizer-BioNTech et les décès post-vaccination dans le pays. Scott Morrison a déclaré que le gouvernement fédéral et la TGA, Therapeutic Goods Administration, évaluent l'incident et parlent aux responsables norvégiens. Les opérateurs touristiques confrontés à des restrictions illimitées aux frontières internationales et ils demandent plus de soutien de la part du gouvernement fédéral. Les Australiens ont compris qu'il est peu probable que les voyages internationaux reprennent avant l'année prochaine, même si les vaccins contre le virus sont lancés le mois prochain. La directrice générale du Forum du tourisme et des transports, Margie Osmond, affirme que le secteur ne peut pas survivre uniquement grâce aux voyages intérieurs, en particulier si les frontières des États continuent de se fermer. Et elle pense qu'un système national de restrictions aux frontières est nécessaire. Le gouvernement fédéral avertit les familles de faire preuve de prudence lors de l'achat de fournitures pour le retour à l'école. Le ministre adjoint de la Défense, Andrew Hastie, conseille aux parents à faire preuve de vigilance lors de leurs achats en ligne, les achats de rentrée scolaire ouvrant la voie aux cybercriminels. Pour d'autres informations, consultez le site cyber.gov.au. Ailleurs dans le monde, au Royaume-Uni, le nombre de patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux est désormais le plus élevé qu'il ait été tout au long de la pandémie. Le secrétaire britannique à la santé, Matt Hancock, a déclaré qu'une personne était admise à l'hôpital toutes les 30 secondes et que le programme de vaccination contre le COVID-19 dans le pays s'accélérait.
The NHS is under significant pressure in all parts of the country. There are 37,475 people in UK hospitals with coronavirus. That is the highest that it's been throughout the pandemic. We have now vaccinated 4,062,501 people across the United Kingdom.
Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré que le premier lot de vaccins devrait être administré en Cisjordanie et dans la bande de Gaza au premier trimestre de 2021. L'autorité palestinienne obtiendra des vaccins COVAX dans le cadre d'un partenariat dirigé par l'Organisation mondiale de la santé avec des organisations humanitaires. Gerald Rockenshaub, chef du bureau de l'Organisation mondiale de la santé pour les territoires palestiniens, a fait part de ses préoccupations aux responsables israéliens.
We have discussions with the Israelis on a number of levels, trying to explore the option whether Israel could consider to allocate vaccines. It will be very difficult, you know, to ensure full protection of the Israeli population while not, you know, ensuring also that adequate vaccinations are done on the Palestinian side.
Aux États-Unis, Kamala Harris a démissionné comme sénatrice avant la cérémonie d'inauguration présidentielle de demain, où elle deviendra officiellement vice-présidente.
We're going into Wednesday knowing that we're ready to do the work. And we've got a lot of work to do. It's not going to be easy. As we have discussed, Joe has outlined our plan for vaccinations, our plan for recovery, and in particular relief for working people, for families. I am very much looking forward to be sworn in as the next Vice President of the United States, and I will walk there to that moment proudly with my head up and my shoulder back.
Donald Trump et sa famille devraient s'installer en Floride. Ses enfants devraient en faire de même. D'ailleurs, Ivanka Trump et son mari Jared Kushner ont récemment acheté un terrain sur un îlot surnommé en Floride le bunker des milliardaires. Précision de Romain Lemaresquier pour Radio France Internationale.
Ce n'est un secret pour personne. Donald Trump et sa famille vont bien quitter ce mercredi Washington pour rejoindre la Floride. L'occasion de voyager pour la dernière fois à bord d'Air Force One pour le clan du président sortant. La Floride n'est pourtant pas le fief des Trump, mais la famille ne serait plus la bienvenue à New York, terre acquise aux démocrates où le magnat de l'immobilier a pourtant forgé sa réputation et sa fortune. Petit bémol tout de même, de nombreux résidents de Palm Beach, localité où est situé le club de Donald Trump, dénoncent leur venue. Certains habitants ont d'ailleurs envoyé le mois dernier une lettre au conseil municipal rappelant que selon un accord signé, ce club ne peut être transformé en résidence principale. Ivanka Trump, qui compte s'installer également en Floride, après avoir acheté avec son mari un terrain estimé à 32 millions de dollars au chanteur espagnol Julio Iglesias, envisagerait quant à elle une carrière politique dans cet état. Mais les comtés où elle pourrait se présenter ne lui sont pas favorables, puisqu'acquis aux démocrates. Reste que Donald Trump et sa famille seront certainement mieux reçus en Floride qu'à New York, où ils sont désormais considérés persona non grata.
Le Premier ministre australien Scott Morrison s'est entretenu avec le vice-président américain sortant Mike Pence. Les deux dirigeants ont souligné l'importance de l'alliance Australie-États-Unis dans la région Indo-Pacifique. L'opposant russe Alexei Navalny appelle les Russes, je cite, à sortir dans la rue contre le pouvoir. On l'écoute.
Ce que ces bandits craignent le plus, c'est que le peuple descende dans la rue. Parce que ça, c'est le facteur politique le plus important, c'est l'essence même de la politique. Alors, n'ayez pas peur, descendez dans la rue. Ne le faites pas pour moi, mais faites-le pour vous et pour votre avenir. Chaque jour, depuis 20 ans, nous devenons plus pauvres, notre pays régresse, nos écoles, notre système de soins se dégrade. Personne n'y peut rien changer, à part nous. C'est pour cette raison que je vous le demande, ne vous taisez pas, résistez et descendez dans la rue. Nous sommes si nombreux que si nous voulons parvenir à nos fins, nous y arriverons.
Direction maintenant la Tunisie, où la violence se poursuit après plusieurs nuits d'émeutes. Le point avec Jeanne Richard pour RFI.
Des affrontements opposent des groupes de jeunes à la police et des scènes d'émeutes ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, notamment dans des quartiers populaires comme État d'Amen, en périphérie de la capitale Tunis. Face aux jets de pierres et de cocktails Molotov des contestataires, les forces de l'ordre répliquent par des tirs de gaz lacrymogène. Des pillages ont également eu lieu. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, ces jeunes ont entre 15 et 25 ans. Il annonce 632 arrestations. Et l'armée a été appelée en renfort pour protéger les bâtiments publics dans les villes de Bizerte, Sousse, Kasserine et Siliana. Et ces troubles ont lieu au moment du 10e anniversaire de la chute du président Ben Ali et le début des printemps arabes. Et alors que la situation sociale et économique continue à se dégrader à cause de la pandémie de coronavirus et que la classe politique ne parvient pas à surmonter ses divisions. Après plusieurs jours de mutisme, le président Kais Saied a fini par se rendre dans un quartier populaire cet après-midi pour appeler au calme. Mais les appels à manifester demain en journée contre la pauvreté se sont multipliés sur les réseaux sociaux.
La disparition de l'acteur français Jean-Pierre Bacri, mort hier lundi d'un cancer à 69 ans. Sophie Torlotin, RFI.
C'était le bougon le plus attachant du cinéma français. Jean-Pierre Bacri s'était construit un personnage, celui du moraliste râleur, au front souvent plissé, à la voix tout à la fois ferme et hésitante. Né en Algérie en 1951, il s'installe à Paris à 23 ans et découvre le théâtre. Il débute sur les planches et décroche des petits rôles au cinéma. Après Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadie en 1982, il craint d'être cantonné au rôle de pied noir. Mais il échappe à l'étiquette en tournant notamment dans Subway de Luc Besson. La rencontre avec Agnès Jaoui en 1987 se révèle primordiale. Leur pièce, Cuisine et dépendance, est un succès sur les planches et est adaptée au cinéma. S'en suivront 6 longs métrages doux amers et plusieurs succès, Un air de famille ou Le goût des autres en 2000. En parallèle, Jean-Pierre Bacri devient un visage familier de nombreuses comédies populaires. Agent de joueur de football dans Didier, il s'illustre aussi sous la direction d'Alain Resnais dans On connaît la chanson ou Olivier Nakache et Eric Toledano dans Le Sens de la Fête. Dernièrement, il était revenu à ses premières amours théâtrales, décrochant un Molière pour Les Femmes Savantes en 2017.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 36 degrés, Adélaïde 29, Melbourne 19, Hobart 17, Canberra 28, Sydney 25, Brisbane 29, Cairns 31 et à Alice Springs maximal de 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 19 janvier. Le Victoria enregistre 4 nouvelles infections au Covid-19 en quarantaine dans les hôtels et 3 d'entre elles pourraient être des joueurs de tennis ou leur entourage. Les responsables déclarent que le Queensland est, je cite, sur la bonne voie pour assouplir les restrictions concernant le virus d'ici vendredi. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports et on débute avec du football et la journée de championnat de Ligue 1 en France et les résultats. Montpellier a perdu chez eux 3-2 face donc à Monaco. Marseille qui perd également à domicile face à Nîmes sur le score de 2-1 et le Paris Saint-Germain qui est allé gagner à Angers sur le score de 1-0. Rennes bat Brest sur le score de 2-1. Nantes et Lens font match nul 1-1. Bordeaux bat Nice sur le terrain niçois 3-0. Strasbourg bat Saint-Etienne 1-0. Lille bat Reims au score de 2-1. On va écouter une réaction, celle de Christophe Galtier, l'entraîneur lillois. Il est satisfait avec cette victoire.
Voilà, on est allé chercher au forceps avec beaucoup de courage et de caractère, notamment en deuxième période. On est quand même un peu dans le dur par rapport à notre jeu pour différentes raisons, avec des absences, avec des joueurs qui sont pas aussi à leur poste, mais quand même avec du courage, du cœur, on se devait de l'emporter pour maintenir un certain écart. On est arrivé à le faire, seulement pas avec la manière, mais avec beaucoup de courage.
Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, défaite de Lyon face à Metz 1-0. D'ailleurs, on écoute Rudy Garcia. Il est déçu d'avoir perdu la tête du championnat. Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais.
Une défaite au goût amer. Déjà, les faits de jeu ne nous ont pas été favorables. Je pense qu'on n'a pas suffisamment cadré nos tentatives. Il vaut mieux ouvrir le score. Donc voilà. Après, quand on ne peut pas gagner, ce qui était malheureusement le cas, puisqu'on n'a pas suffisamment concrétisé nos offensives, il fallait au moins pas le perdre. On n'a pas été capable de... Une perte de balles de notre part, même s'il y a peut-être faute. Mais bon, on ne doit pas s'arrêter. On doit continuer à jouer. Et on ne doit pas prendre ce but à la fin.
Rudy Garcia. Au classement, vous l'aurez compris, le Paris Saint-Germain reprend la tête du championnat, premier avec 42 points, ex aequo avec Lille, et Lyon est troisième donc avec 40 points, Monaco quatrième et Rennes cinquième, Marseille est sixième. En bas de classement, Nîmes est 18e, Dijon 19e et Lorient ferme la marche, lanterne rouge de ce championnat avec 12 points. On part en Angleterre, il y avait un choc des titans ce week-end, match entre Manchester United et Liverpool. Et ça s'est terminé par un match nul. Résumé et analyse de cette rencontre et du championnat anglais avec Philippe Auclair au micro de RFI.
Alors, pas de vainqueur dans ce choc au sommet, 0-0. Statu quo, dit comme ça, Manchester United semble bien s'en tirer, mais à y voir de plus près, on se dit qu'il y avait peut-être encore mieux une victoire à aller chercher à Anfield cet après-midi.
Pourquoi pas? Parce que quand on voit, par exemple, l'entame des hommes de Jürgen Klopp, bon, très enthousiaste, encore une fois, mais très, très malhabile dans le dernier geste, en particulier Roberto Firmino, on s'est dit que plus le match avançait, plus on imaginait cette équipe de Manchester United, qui a tendance, en plus de ça, à se réveiller en seconde période, à faire un coup, et à donc augmenter son avance en tête du classement. Et ils ont été dangereux en contre, ils ont été fragiles en défense un petit peu également par moment, mais ils ne sont pas parvenus à tirer le parti maximum de ce qui n'est pas une crise, mais un moment de flottement, qu'on va dire, du champion en titre. Donc autant dire que le sort du championnat est très très loin d'être réglé.
Voilà donc pour le championnat anglais, en tête Manchester United avec 37 points devant Manchester City 35, 3e Leicester 35 points, 4e Liverpool 34 points et Tottenham, les Spurs sont 5e avec 33 points. Points en bas de classement. West Bromwich Albion est 19e et Sheffield United ferme la marche du championnat anglais avec 5 petits points. Allez, un sport qui fait fureur sur SBS, c'est le basket. Nous avons bien entendu la NBL, la Ligue australienne, et également la NBA, la Ligue américaine. Retour sur James Harden, l'un des phénomènes de cette NBA, et son premier match à Brooklyn. Alexis Guilleux.
James Harden from downtown. Welcome to Brooklyn.
Bienvenue à Brooklyn, un premier match et un premier record hier soir pour James Harden, 32 points, 12 rebonds et 14 passes, performance inédite pour un joueur lors de son premier match sous ses nouvelles couleurs. Des chiffres qui n'intéressent pas James Harden, interrogé après la rencontre.
Ces statistiques ne veulent rien dire. J'essaie juste de faire tout ce que je peux sur le terrain pour faire gagner l'équipe. Quand tu joues avec des super coéquipiers, pour moi c'est facile. J'ai juste besoin d'apprendre à les connaître. Après, je serai plus efficace.
James Harden est attendu au tournant à Brooklyn. Après un long bras de fer avec son ancienne équipe des Rockets, le meneur a tout fait pour quitter le Texas pour jouer ailleurs et décrocher le titre NBA. Quitte à en faire le moins possible à Houston ces derniers mois. En début de semaine, avant son dernier match avec les Rockets, le commentateur s'attarde sur la prise de poids de James Harden depuis le début de saison. Ses statistiques sont décevantes et l'équipe est engluée dans le bas de classement. Une histoire de 8 ans se termine avec Houston. Le transfert est annoncé le lendemain. L'échange implique 4 équipes et 7 joueurs. James Harden se retrouve comme il le souhaite à Brooklyn avec une autre superstar, son ami Kevin Durant. Un comportement que critique l'ancien joueur, désormais consultant chez Kilonil.
Il ne s'est pas montré quand il devait le faire. Quand tu es un joueur, que tu gagnes 30 à 40 millions par an, c'est une grosse responsabilité. Tout repose sur toi. Maintenant qu'il a sa super équipe, il doit gagner cette année.
Car oui, Houston s'est plié aux demandes de James Harden ces dernières années. Lui a brillé individuellement, 30 points par match en moyenne, un trophée de meilleur joueur en 2018. Mais collectivement, c'est un échec. L'équipe est restée aux portes des finales NBA. Vendredi, lors de sa première conférence de presse sous son nouveau maillot, James Harden l'a admis, il vient à Brooklyn pour gagner.
Je crois qu'à ce moment de ma carrière, ça n'a plus rien à voir avec l'argent. Il s'agit d'atteindre l'objectif ultime, de gagner au plus haut niveau.
Une belle saison, c'est ce qu'attendent les supporters de Brooklyn qui espèrent une victoire finale.
Voilà donc pour le basket. Et on conclut ce journal des sports avec du biathlon et la victoire de Julia Simon, la française. Reportage d'Anne Verdaguet.
Victoire française au biathlon d'Oberhof en Allemagne. Julia Simon a remporté la Mass Start, épreuve comptant pour la Coupe du Monde de biathlon. La biathlète signe le deuxième succès de sa carrière. Âgée de 24 ans, elle a devancé l'Allemande Franziska Preuß et la Suédoise Anna Öberg. Il y a encore quelques jours, pourtant, Julia Simon confié à ses entraîneurs après une très décevante 59e place sur le sprint, vouloir arrêter le biathlon, et elle ne regrette pas d'avoir persisté. On l'écoute.
Le ski de fond, c'est mon premier amour, et c'est vrai que quand c'est dur, j'ai toujours cette pensée de me dire pourquoi je m'embête avec ces 5 cibles à battre, pourquoi je vais pas juste seulement mettre mes skis de fond et me frotter à mes adversaires. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça me conforte un petit peu dans mon choix aussi. Je suis vraiment super contente de ma course. Et je suis assez surprise, en fait. J'ai l'impression de ne pas l'avoir vécu ce dernier tour, tellement j'étais dans le dur. Mais dans le dur, je ne m'attendais pas à être sortie en tête. Et là, ça me double. Et Tose, en semaine là-bas, il me dit c'est la gagne. Mais je dis mais quoi? Mais non, mais là, je ne peux pas. J'ai pas les jambes pour y aller. Je ne peux pas. Et en fait, on a vraiment des ressources complètement dingues. Et je suis allée au bout, quoi.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. Allez, on fait une courte pause en musique et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
sur Radio SPS.
Allez, comme chaque mardi, place à présent avec l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Paris, Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, les plus de 75 ans qui vont pouvoir se faire vacciner en France.
Oui, nouvelle étape dans la campagne de vaccination lancée fin décembre. Les autorités, le gouvernement français essaient d'accélérer le processus hein, après les personnes résidant dans les maisons de retraite qui ont été les premières à pouvoir bénéficier du vaccin et la campagne de vaccination continue dans les EHPAD. Le gouvernement a déjà étendu la vaccination aux soignants âgés de plus de 50 ans et depuis hier, ce lundi, toutes les personnes de plus de 75 ans, effectivement, ces personnes vivant chez elles, ont le droit de se faire vacciner. Alors ces personnes, de par leur âge, sont le plus à risque hein, et la pression se faisait grandissante pour qu'on ouvre enfin à tous les plus de 75 ans la campagne de vaccination, pas seulement à ceux se trouvant en maison de retraite ou à l'hôpital. Cela va demander une sacrée logistique, hein, cette accélération du calendrier. Ça n'était pas le calendrier initial qui avait été proposé par le gouvernement au mois de décembre. Les plus de 75 ans qui vivent chez eux, cela concerne au bas mot 5 millions de personnes. Et rappelons que normalement, deux doses de vaccin à environ un mois d'intervalle doivent être injectées. De même, la vaccination est élargie sans limite d'âge aux personnes considérées à risque. Les personnes souffrant d'obésité, de diabète par exemple, hein, ce que l'on regroupe sous le terme de comorbidité, ce sont là 800 000 personnes qui sont concernées. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait toutes ces annonces jeudi dernier lors de la conférence de presse du gouvernement. Hein, cette conférence de presse durant laquelle le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le couvre-feu était désormais étendu dès 18h à toute la France. Ce couvre-feu initié le 15 décembre dernier, il démarrait à 20h. Ensuite, on l'a ramené à 18h dans quelques départements. Mais maintenant, c'est tout le territoire français qui doit se soumettre à ce couvre-feu dès 18h.
Alors la question, est-ce que les autorités sanitaires vont être en mesure de suivre ce rythme de vaccination ?
Oui, c'est toute la question. Il y a une certaine opacité sur le nombre de vaccins réellement disponibles en France. Hein. Ces derniers jours, le fabricant Pfizer Biotech a fait savoir à l'Union européenne qui les a commandés et qui les redistribue ensuite au prorata de la population aux différents pays membres de l'Union, les 27 de l'Union. Pfizer Biotech a expliqué qu'il allait y avoir du retard dans la livraison de ces vaccins commandés par l'Union européenne. Or, la France est déjà sous tension. Le nombre de vaccinations par semaine, actuellement, il est d'environ 500 000 en France. En tout cas, c'est ce que nous dit le gouvernement. Mais nous le disions, les plus de 75 ans, ils représentent 5 millions d'individus. Et avec deux doses par personne, vous arrivez à 10 millions de doses qu'il va falloir rien que pour les plus de 75 ans. Il faut un nombre de vaccins suffisant, mais il faut aussi la logistique hein, des centres de vaccination, dans les villes, des médecins disponibles pour prodiguer hein, ces vaccins. Et tout cela suscite quelques sueurs froides hein, du côté du gouvernement entre les chiffres annoncés, 500 000 vaccinations par semaine, et ce qu'il va réellement se passer sur le terrain. On est en droit d'émettre quelques doutes. On se demande dans la population, mais aussi du côté des ministères, comment on va bien pouvoir répondre à cette demande, 500 000 vaccinations par semaine. En fin de semaine dernière, déjà, dès qu'il a été annoncé que les plus de 75 ans pourraient dès maintenant se faire vacciner, eh bien en 24 heures, plus de 500 000 personnes se sont inscrites, à tel point que le site internet santé.fr s'est retrouvé complètement saturé, tout comme les standards téléphoniques pour les prises de rendez-vous. 500 000 personnes de plus de 75 ans qui ont déjà bouclé leurs deux rendez-vous hein, pour deux doses. Olivier Véran a pris les devants en imaginant les queues dans les centres de vaccination, les frustrations pour ceux et celles à qui on ne propose des rendez-vous que dans plusieurs semaines. Si cela prend du temps, plusieurs semaines à lâcher le ministre de la Santé, soyez rassurés, en définitive, vous serait vacciné, certes, mais pendant ces longues semaines, le vaccin se fait attendre pour ces personnes et le virus lui court toujours. Alors que chacun puisse se faire vacciner, bien sûr, à terme, personne n'en doute. Hein, d'ailleurs, on remarque que les résistances contre les risques éventuels de la vaccination, les discours des anti-vaccins, tout cela est en train de s'estomper en France. Les Français, oui, veulent se faire vacciner au plus vite, car l'épidémie, elle, continue dans le pays de faire des ravages. Hein, des journées à plus de 20 000 nouveaux cas depuis la nouvelle année 2021, entre 100, 200, voire plus morts par jour. La pandémie est là, l'hiver est là. La situation en France est toujours très préoccupante. Hein, rappelons que l'épidémie de Covid-19 a déjà fait plus de 70 000 morts en France.
Alors vous le disiez, le couvre-feu démarre désormais à 18h jusqu'à 6h du matin, mais les écoles restent ouvertes.
Oui, et d'ailleurs Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, il a beaucoup insisté là-dessus jeudi dernier face à la presse, à savoir que la France, contrairement à la majorité des pays européens, garde ses établissements scolaires ouverts. Les écoles ne sont pas fermées. Pour l'instant, il n'en est pas question. Les écoles, les collèges, les lycées, pas question de les fermer comme lors du premier confinement en mars dernier. Cette continuité pédagogique sur place, en présentiel, dans les établissements, plutôt que des cours à distance, en visio, le gouvernement fera tout pour les préserver, car les jeunes, ils sont déjà privés de beaucoup de choses. Tout le monde souffre hein, dans cette épidémie, mais les jeunes, peut-être plus encore. Les activités extrascolaires sont de nouveau à l'arrêt, sport, culture, art, à l'exception des cours à l'école. Hein, toutes les activités extrascolaires en association, en club, tout ce qui ne se déroule pas en plein air, eh bien, s'arrête de nouveau. Pour les adultes, alors vous gardez le droit d'aller travailler sur votre lieu de travail, mais avec un couvre-feu dès 18h, eh bien, des millions de salariés sont en train de nouveau de basculer dans le télétravail. Le lien social réduit à son strict minimum avec... pour le gouvernement, ce pari, avec ce couvre-feu des 18h, très contraignant, eh bien, qu'il soit suffisant pour casser la circulation du virus, que cela suffise et qu'il n'y ait pas besoin dans 15 jours, quand la situation sera réévaluée, ou dans un mois, qu'il n'y ait pas besoin d'imposer un nouveau confinement total à toute la population.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu française pour nous cette semaine.
Merci, à bientôt.
À la semaine prochaine. On fait une courte pause en musique et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Et maintenant, je passe l'antenne à notre collègue Grégory Pless qui parle à deux Français sur des observations d'étoiles dans les Blue Mountains de Nouvelle-Galles du Sud.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'astronomie, les étoiles, les constellations, la beauté de la nuit. Et pour discuter de tout cela, nous avons avec nous aujourd'hui Dimitri Douchin. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors Dimitri, vous êtes à l'origine français, vous vivez maintenant dans un petit village des Blue Mountains. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes arrivé en Australie?
Oui, tout à fait. Donc, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours voulu être astrophysicien. Donc, je suis né près de Paris, à Soisy-sur-Montmorency. J'ai étudié la physique fondamentale à Orsay. Et puis, en 2011, j'ai déménagé en Australie pour commencer ma thèse en astronomie et astrophysique à la fac de Macquarie University. Et j'ai eu mon PhD en 2014 en astronomie et astrophysique. À la suite de quoi j'ai mis cette carrière en pause. Et puis, après quelques années, bien maintenant, je suis de retour un petit peu dans l'astronomie, en étudiant l'aspect plutôt culturel de l'astronomie et comprendre comment différentes cultures étudient le ciel, interprètent le ciel et ce que ça nous dit en tant que de ce qui nous sommes en tant qu'humains.
Et donc, je le disais un peu plus tôt, vous viviez dans une toute petite ville qui se trouve dans le secteur des Blue Mountains. La ville en question s'appelle Lura.
Une petite ville à côté de la capitale des Blue Mountains, qui est aussi une petite ville, Katoomba. Et effectivement, Caroline et moi, ma fiancée et ma partenaire, avons vécu 8 ans à Sydney. Et puis au bout de 8 ans, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment embrassé cette idéologie des grands espaces que je cherchais et que j'habitais encore dans une métropole internationale. Et donc, nous sommes partis dans les Blue Mountains, à 1h30 de Sydney, qui est un petit peu le repère de tous ceux qui aiment la nature sans être trop loin d'une grande ville.
Alors, vous aimez la nature, mais votre autre passion, ce sont donc les étoiles. Est-ce qu'on peut bien les observer dans le secteur où vous vous trouvez?
Oui, bien sûr. Donc, si on prend en comparaison les grandes métropoles internationales, Paris ou Sydney, eh bien, la pollution lumineuse limite énormément le nombre d'étoiles qu'on peut voir et ce qu'on peut voir à travers un télescope. Donc, de se mettre ne serait-ce que quelques heures en dehors de ces grandes villes, ça permet bien sûr de limiter la pollution lumineuse. Et dans les Blue Mountains, on est aussi à 1000 mètres d'altitude. Donc, on a moins d'atmosphère à traverser. Et donc, la vue des étoiles est bien, bien meilleure. L'air est très frais et on peut y voir avec une grande transparence.
Et c'est pas un hasard que vous ayez choisi cette région, puisque justement, avec votre compagne, vous organisez des tours pour observer les étoiles, soit au moment du coucher de soleil, soit quand la nuit est déjà complètement tombée.
Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est encore une fois, c'est cette passion de partager notre amour pour la nature et pour le ciel qui nous a poussé à faire ça. C'était assez naturel aussi comme choix, puisque Sydney étant juste à côté... Les gens sont assez curieux de ce qu'on peut voir dans les Blue Mountains pour se ressourcer. Il n'y a pas énormément d'activités dans les Blue Mountains le soir. Et ayant été guide à l'Observatoire de Sydney, puis au Resort The One and Only et Lake Te Kapo en Nouvelle-Zélande, qui sont des lieux où on peut voir les étoiles de manière absolument incroyable, eh bien, j'étais naturellement poussé à commencer à faire cette activité ici. Et donc, on a commencé cette activité il y a 6 mois, en plein Covid.
Alors, comme moi, vous venez de France et donc de l'hémisphère nord. Qu'est-ce qu'il y a ici dans l'hémisphère sud comme étoiles et constellations qu'on ne peut pas voir en Europe?
Alors, le ciel de l'hémisphère sud est très intéressant parce qu'on y trouve beaucoup de repères qui nous aident à nous situer, à comprendre notre place dans l'univers. Donc, on a par exemple, on peut déterminer où est le pôle sud dans le ciel, ce qu'on peut aussi faire dans l'hémisphère nord, ça n'y a pas de problème. On peut trouver Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de la Terre, à environ 4 années-lumière. Donc, c'est notre plus proche voisin, le système solaire qui est le plus voisin de nous. On peut aussi y voir le centre de notre voie lactée, le supermassif black hole, pardon, le trou noir supermassif qui est au centre de la voie lactée. On peut voir ça en hiver. Et puis, il y a aussi les deux galaxies voisines les plus proches de nous, qui s'appellent les nuages de Magellan, le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan, qui sont visibles au-dessus de l'horizon à chaque instant. En fait, ce sont des galaxies qui ne se couchent jamais. Et donc, on peut toujours voir au moins 3 galaxies dans le ciel quand on est dans l'hémisphère sud. Et à ce regard, on peut vraiment bien comprendre notre place dans le système solaire et dans l'univers, à toutes les échelles qui sont autour de nous.
Et dans les tours que vous proposez, les étoiles, on les observe uniquement à l'œil nu ou vous fournissez également des télescopes?
Il y a beaucoup d'étoiles que vous pouvez voir à l'œil nu. Et bien sûr, après, quand il y a des objets qui ont une signification particulière ou un intérêt physique ou astronomique particulier, et bien là, on peut pointer le télescope dessus. Et ça peut être des choses très basiques, comme par exemple la Lune, qui offre, avec un télescope tout simple, un paysage incroyable au niveau du Terminator, qui est la ligne qui sépare le jour et la nuit sur la Lune. On peut voir vraiment une vue tridimensionnelle des cratères et des mers qui sont sur la Lune. Et ça peut être aussi des objets plus complexes, par exemple la nébuleuse d'Orion, qui est une étoile qui est en train de naître dans son cocon de poussière et de gaz. Ça peut être aussi un amas d'étoiles, qu'ils soient globulaires ou ouverts, qui sont des familles d'étoiles allant de 10 à 2 millions d'étoiles. Ce sont des regroupements qu'on peut voir au télescope, bien en détail.
Alors, dans vos tours, Dimitri, il n'y a pas une approche uniquement scientifique. Vous abordez aussi la question des étoiles et de l'astronomie sur le plan culturel à travers les civilisations, puisque les étoiles, elles sont source de mythes et de croyances un peu partout dans le monde depuis les origines de celui-ci.
Tout à fait, c'est exactement ça. Les étoiles, le ciel, c'est finalement la ressource qui a été partagée par toutes les cultures autour du monde et qui a fasciné l'homme depuis des milliers d'années. Peut-être même les Australopithèques étaient déjà fascinés par par le ciel. Et donc, c'est aussi un médium dans lequel l'homme a toujours enregistré de l'information, quelles que soient les cultures, quelles que soient les époques. Et donc, on peut comparer comment ces informations sont stockées, quelles sont les connaissances qui ont été acquises, quels sont les modes, les technologies, les sciences, les calculs qui ont été mis au point pour comprendre le ciel. Et aussi, à l'inverse, comment le ciel régule la vie d'une civilisation, que ce soit en termes de calendrier, que ce soit en termes de rituels, que ce soit en termes de déterminer les périodes de chasse, les périodes de repos, les périodes d'abondance, les périodes de sécheresse, etc. Donc, on fait un petit pot pourri. On présente beaucoup les constellations à la manière des Grecs anciens et des Romains, puisque ce sont eux qui ont donné le nom de nos constellations, en tout cas à la majorité de l'hémisphère nord. Et on présente aussi quelques petites pépites de knowledge de certaines cultures, par exemple la culture maya. On aborde aussi les cultures aborigènes, bien sûr d'une manière qui est culturellement appropriée. Je ne suis pas aborigène moi-même, donc il ne m'est pas permis ni éthique de partager des ressources d'histoire aborigène qui sont vraiment les ressources les plus tangibles et de grande valeur qu'on peut avoir dans cette culture. Mais on aborde quelques points un petit peu techniques et observationnels qui peuvent aider à s'intéresser à l'aspect aborigène australien de ce ciel.
Dimitri, si on veut faire une excursion avec vous, combien ça coûte? À quelle heure et quel jour les tours sont organisés? Est-ce que vous pouvez me donner les informations pratiques?
Bien sûr. Donc le prix par personne, c'est $65. Nous faisons notre tour à Wentworth Falls, qui est une petite ville à côté de Leura et de Katoomba, une heure et quart, 1h20 depuis Sydney. Et donc, en général, on fait deux tours. Un tour au coucher du soleil, ce qui varie selon la saison. En ce moment, c'est le plus tard, ça commence à 8h30. Et ensuite, un tour de nuit noire qui commence à 10h. Et vous pouvez venir avec vos enfants, vous pouvez venir en groupe. On a un groupe maximum de 10 personnes. Et on fait ces tours souvent le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et aussi en semaine, quand il fait beau. Et comme le programme dépend de la météo, on vous informe quelques heures avant le tour si le tour est maintenu ou non. Et si le tour n'est pas maintenu, vous pouvez rebooker votre tour pour une nuit où le temps sera meilleur.
Et comment on fait pour vous trouver sur Internet?
Donc, le nom de notre société, c'est Blue Mountains Stargazing. Notre site, c'est bluemountainsstargazing.com.au. Et vous pouvez faire vos bookings directement sur notre page.
Merci beaucoup, Dimitri, et très bonne journée.
Merci, à bientôt, au revoir.
Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. N'oubliez pas, entre-temps, de télécharger gratuitement nos podcasts sur sbs.com.au/French. Très belle fin d'après-midi. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.